thing. I think it rips through your clothes when it takes you over.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Migo. Pour commencer cette année 2022, nous vous proposons d'explorer le New Weird. Qu'est-ce qui définit ce genre littéraire? Quel est le lien de parenté avec la Weird Fiction et H.P. Lovecraft? Et enfin, qui sont les autrices et auteurs phares de ce mouvement? Pour répondre à ces questions et nous accompagner dans cette découverte, nous avons invité Marc Ancho, blogueur, auteur et doctorant du New Weird. Allez, c'est parti, bonne écoute.
Bon, eh ben, bonsoir. Donc moi, je suis Marc Ancho. Alors, je suis doctorant en littérature, donc je travaille justement sur le New Weird, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Et à côté de ça, donc, je suis blogueur sur le blog Les Chroniques du Chroniqueur et je fais partie de l'équipe du podcast de Mana et Plasma. Je sais qu'il y a des gens de Mana et Plasma dans le chat, donc coucou à eux. Alors, donc, je vais vous parler, ce soir, je vais vous parler du New Weird. Donc je vais commencer par vous dire que du coup je voulais parler de tout parce que je suis quelqu'un qui aime parler de tout, sauf que je ne vais pas pouvoir, donc j'ai dû faire quelques choix, mais de toute façon je ferai un article sur mon blog pour en parler avec pas mal de sources et tout, donc je pense que ça devrait être bon. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser. Donc, d'abord je vais vous donner une définition du New Weird. Donc avant tout, on va s'intéresser au mot « weird » pour pouvoir construire une définition. Donc, le mot « weird », c'est un mot anglais qui veut dire « étrange » et « bizarre ». Et donc, le mot apparaît pour désigner des récits au XXe siècle, notamment pour parler en fait, des récits qui étaient publiés dans le pulp magazine qui s'appelait « Weird Tales », dans lequel ont été publiés en fait des gens comme Lovecraft, comme Clark Ashton Smith et comme Robert Howard. Lovecraft, c'est l'auteur d'un certain Appel de Cthulhu. Clark Ashton Smith, c'est l'auteur des récits de Zotik, notamment. Et Robert Howard, c'est l'auteur qui a créé notamment Conan, mais pas que. Alors, la weird fiction, puisque le mot weird a donné donc, du coup, son nom au genre, selon Jeff Vandermeer, qui est donc l'un des auteurs du New Weird et aussi l'un de ses théoriciens, donc dans une préface d'une gigantesque anthologie qui s'appelle The Weird, Jeff Vandermeer il dit que la weird fiction, ce serait un mode fictionnel ou un mode d'écriture. Donc toujours dans cette préface, Vandermeer dit que dès l'époque de Lovecraft, la weird fiction, c'est un récit qui possède un élément surnaturel, mais qui ne tombe pas dans la catégorie de l'histoire de fantômes traditionnelle ou dans le roman gothique. Chen Yamieville, donc, qui est un autre auteur de weird fiction, un autre auteur du New Weird, dans un guide universitaire sur la science-fiction, il va décrire la weird fiction de la manière suivante. Donc, il la décrit comme une fiction plutôt macabre et haletante, génériquement glissante, du fantastique sombre, qui mêlerait l'horreur à la fantaisie, et met souvent en scène des monstres extraterrestres non traditionnels, ce qui la rapprocherait de la science-fiction. Donc ça nous montre ça, que la weird fiction, dès ses origines, elle ne correspond pas exactement aux standards du fantastique traditionnel. Et les définitions en fait, que Vandermeer et Mieville donnent, ça montre que la weird fiction, elle peut se retrouver dans chacun des grands genres de l'imaginaire, qui sont donc la fantasy, le fantastique, l'horreur et la science-fiction. Donc, la weird fiction, elle aurait tendance, en fait, à subvertir toutes ces catégories et les cases qu'on aurait tendance à définir. Les deux auteurs aussi, ils disent aussi que c'est un genre qui a tendance à abolir les frontières, en fait. Moi, et c'est plus ou moins là-dessus que mes travaux de thèse vont s'articuler, j'ajouterais aussi à ça, à cette définition de la weird fiction, un critère qui est esthétique et poétique. Puisque, d'après moi, les textes de weird fiction s'appuieraient donc sur ce que... Donc c'est un concept que Denis Mellier, donc, qui est mon directeur de thèse, emploie, qui s'appelle la rhétorique de la monstration. Alors, ça veut dire que les textes de weird fiction, ils vont s'appuyer sur une débauche d'effets descriptifs. Donc, ils vont s'appuyer sur les hyperboles. C'est une figure qui consiste à exagérer. Et donc, en weird fiction, les auteurs ils vont mettre en valeur les caractéristiques irréalistes des créatures qu'ils décrivent. Donc, on pense par exemple à la taille immense et aux tentacules de Cthulhu. Plus récemment, on peut penser par exemple chez Mieville à la fileuse, qui est une araignée qui a des bras humains en dessous du cou. Donc, Mieville va bah, beaucoup, beaucoup insister là-dessus quand il va la décrire. Et on va aussi avoir pas mal d'hypotyposes en Weird Fiction. L'hypotypose, c'est une description vivante d'un objet ou d'une créature qui va en fait fixer des détails frappants pour le lecteur. Donc, par exemple, quand vous avez dans l'Appel de Cthulhu de Lovecraft une description des tentacules de Cthulhu, enfin d'une statue de Cthulhu, justement, le narrateur va s'appuyer sur cette description des tentacules, sur les ailes de dragon, qui vont donner en fait une idée générale de ce que c'est. Et ces techniques-là, cette rhétorique de la monstration, ça va permettre de rendre tangibles des créatures plus ou moins sympathiques et plus ou moins dégueulasses. Donc ça, c'est ce qu'est la weird fiction. Le New Weird, c'est une forme ultra contemporaine de weird fiction, puisqu'on peut situer son émergence entre les années 90 et les années 2000, et il continue d'exister aujourd'hui à travers différentes voies, puisque bon, si c'est 90-2000, les auteurs du New Weird sont encore vivants, et bien vivants d'ailleurs. Le terme a été employé pour la première fois dans un avant-propos de M. John Harrison, qui est un auteur dont je vais vous parler un tout petit peu après. Et donc, c'était une préface de la novella The Tain, d'un certain Chenia Mieville. En français, elle a été traduite par le titre Le Tain, du coup, et elle est disponible dans le recueil qui doit s'appeler Enquête de Jake et autres nouvelles. C'est paru chez Autre Fleuve, je crois, il y a un ou deux ans. Dans l'anthologie, dans la préface, puisqu'il y a eu une anthologie qui s'appelle The New Weird, par Jeff Vandermeer, où Jeff Vandermeer lui-même, justement, va donner les caractéristiques du New Weird dans une préface qu'on peut qualifier de préface définitoire. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, Bruce Sterling avait déjà fait pour le cyberpunk avec une anthologie qui s'appelle Mozart envers miroir. Donc, on pourrait considérer, de par l'existence de cette préface et de cette anthologie, que le New Weird serait un mouvement. Le problème étant qu'il n'y a pas exactement d'école du New Weird, donc on peut considérer que ça correspond plutôt davantage à un moment qu'à un véritable mouvement. Mais, et certains essais critiques présents dans The New Weird le disent, si on perçoit l'histoire littéraire de manière schématique, donc comme on l'apprend en fait dans le secondaire, on peut considérer que le New Weird va succéder au cyberpunk qui lui-même succédait à la New Wave. Donc, le terme New Weird, vous l'aurez compris, hein, il est composé de deux termes, new et weird, et je vais revenir du coup avec vous sur ces deux termes pour examiner ces sources. On va s'attarder sur le mot new. Donc le mot new, ça veut dire nouveau en anglais, et ça renvoie à deux aspects précis du new weird. D'abord, c'est un terme qui fait référence à la new wave de la science-fiction. Donc la new wave, c'est un courant des années 60-70, en SF, et ça s'oppose au récit qu'on qualifiait d'âge d'or et qui correspondait à la science-fiction de l'immédiat de l'après-guerre. Donc c'est là-dedans que vous mettez par exemple Isaac Asimov, Arthur Clarke, beaucoup d'hommes, hein, voilà. Donc les auteurs de la New Wave, ils s'intéressaient davantage à l'être humain que leurs prédécesseurs, et en termes de forme, c'était beaucoup plus littéraire et parfois beaucoup plus expérimental. Dans la préface de The New Weird, Jeff Vandermeer il va citer notamment Michael Moorcock, M. John Harrison et Ballard. Donc les deux premiers, Moorcock et Harrison, ils vont très souvent apporter leur soutien aux auteurs du New Weird, notamment en rédigeant des préfaces pour les auteurs du New Weird. Par exemple, Moorcock a signé un avant-propos très très beau d'ailleurs de La Cité des Saints et des Fous de Jeff Vandermeer. Et Harrison, comme je l'ai dit un tout petit peu avant, il a préfacé The Tain de Mieville. À travers la New Wave, le New Weird va aussi récupérer certaines influences du coup, des auteurs de la New Wave. Donc, par exemple, il va récupérer, à travers Moorcock, justement, il va récupérer Mervyn Peake, qui est l'auteur de Gormenghast, et il va récupérer aussi l'influence des décadents, donc du 19e siècle. Dans la préface de The New Weird, mais aussi dans la préface de la Cité des Saints et des Fous, donc Jeff Vandermeer et Michael Moorcock, ils vont mettre aussi en évidence l'influence de Jack Vance. Alors, le Jack Vance qui a écrit la Terre Mourante, ils insistent en particulier sur la Terre Mourante, puisque dans la Terre Mourante, vous avez un mélange des genres et beaucoup, beaucoup de créatures plus ou moins étranges. Donc, le New Weird va récupérer, du coup, toutes ces influences-là. et du coup va récupérer cette capacité à mélanger les genres et à expérimenter beaucoup. Je vous en reparlerai un tout petit peu après. Pendant le, au cours du fil de discussion, parce qu'il y a eu un fil de discussion qui, au début des années 2000, il y a eu un fil de discussion sur Internet qui cherchait en fait à définir ce que c'est, à donner une définition de ce que c'était le New Weird. Et donc pendant ce fil de discussion, M. John Harrison, dont on a parlé juste avant, il affirmait que le terme New Weird était quelque part meilleur que Next Wave, mais rien que l'existence en fait de ce terme Next Wave, ça aurait marqué aussi tout aussi bien le lien du New Weird avec la New Wave en fait. Et ensuite, donc ça c'est pour c'est le premier aspect du mot New dans New Weird. Le deuxième aspect, l'usage de New, en fait, ça permet au New Weird de s'opposer à du coup un Old Weird qui serait représenté en fait par Lovecraft, par Smith et aussi par d'autres auteurs comme Arthur Macken. Et en fait, ces auteurs-là, ils vont être complètement compris et en même temps plutôt rejetés par le New Weird. Et ça, on va d'abord pouvoir l'observer sur le plan politique, puisque bon, vous n'êtes pas sans savoir que Lovecraft a été ultra conservateur et plutôt très raciste pendant la majorité de sa vie. Donc ça, son biographe Esti Joshi l'explique et il le commente dans la biographie qui s'appelle « Je suis Providence ». Et Arthur Macken, c'était un catholique assez réac, on va dire ça comme ça. Les auteurs du New Weird, ils vont être très, très opposés à ces auteurs-là sur le plan politique. Mieville en tête de liste, puisque Mieville est très engagé en politique et c'est un militant marxiste convaincu, on va dire ça comme ça. Ça va transparaître donc déjà dans les visions politiques, et les visions politiques de ces auteurs-là, elles vont influencer leur vision de l'altérité. Chez Lovecraft, l'autre est vu comme un monstre, en fait, hein, avec donc Cthulhu, donc, qui est une horreur, absolue. Et en fait, chez Lovecraft, il ne faut absolument pas se mélanger à l'autre sous peine de donner en fait des créatures ignobles. Donc, c'est ce qu'on voit dans l'Abomination de Dunwich et dans Le Cauchemar d'Innsmouth. Chez Lovecraft, notamment, l'altérité, elle va être perçue sous le prisme d'une fascination effrayée. Et elle va être décrite de manière très très exagérée par des narrateurs en fait dont la psyché, elle va être marquée très très marquée par tout ce qu'ils voient, en fait, toutes les horreurs qu'ils voient, et qu'ils ont du mal à transmettre. Mais en fait, ces narrateurs-là, ils sont marqués aussi par ce que Lovecraft en fait, c'est-à-dire des gens qui ont tout simplement peur de l'autre, en fait. Voilà. Chez les auteurs qui sont rattachés au New Weird, l'altérité, elle est beaucoup plus ambiguë. Elle va être beaucoup moins négative ou effrayante, mais elle va rester quand même très fascinante. Mieville, il va décrire des relations interespèces dans le roman qui s'appelle Perdido Street Station, donc à travers le couple que forment Isaac, donc qui est un humain, et Lynn, qui est une képri, donc c'est-à-dire c'est une humanoïde en fait, dont la tête est un scarabée. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a une tête de scarabée, hein, ça veut dire qu'elle a littéralement un scarabée à la place de la tête, l'insecte, en proportion, évidemment. Jeff Van Dormer dans Bourne, il va mettre en scène une créature tentaculaire qui donne son nom au roman, donc qui s'appelle Bourne. Et en fait, cette créature-là, elle va être adoptée par Rachel, enfin une humaine qui s'appelle Rachel, et qui va tenter de l'élever comme un enfant humain, donc malgré son étrangeté, ses capacités surnaturelles et le fait qu'il mange beaucoup de choses, dont des lézards et dont des gens. Donc voilà, essayez d'imaginer ce que c'est d'élever un enfant qui est en fait une sorte de mini Cthulhu vorace. C'est sans doute le roman montre que c'est particulièrement difficile. Donc les deux auteurs vont décrire aussi des monstres comme figures antagonistes. Hein, donc Mieville va décrire des gorgones qui peuvent vider un corps de son esprit. Et un ours géant, et Van Dormer va décrire un ours géant qui s'appelle Mord. Alors il faut savoir que Mord est un ours géant. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est un ours géant qui vole et qui peut tirer des lasers. Voilà, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment ça. Cependant, ces créatures-là, en fait, au-delà de leur aspect monstrueux et assez pulpesque, hein, quand même, elles sont soit exploitées pour fabriquer de la drogue qui va être revendue très très cher, ça c'est pour les gorgones de Mieville, soit en fait on va apprendre que c'est des êtres humains qui ont été transformés à la suite d'expériences particulièrement inhumaines et particulièrement dégueulasses et particulièrement et évidemment pas consenties dans le cas de Mord. Donc du coup l'altérité du New Weird en fait elle va être tout aussi fascinante que celle du Old Weird, mais en fait elle va apparaître beaucoup plus humaine. Ensuite, le New Weird il va rompre sur le plan formel avec le Old Weird. C'est-à-dire que les auteurs du New Weird vont adopter souvent des formes plutôt expérimentales avec les techniques en fait, narratives et stylistiques qui correspondent à ce type d'expérimentation. Donc, par exemple, dans La Cité des Saints et des Fous, Jeff Vandermeer il va jouer très allègrement avec la métatextualité. Donc, ça veut dire que... Alors, la métatextualité, c'est... Il fait des mises en abîme littéraires dans ses textes. Donc, ça veut dire qu'il va, par exemple, se mettre lui-même en scène dans les prisons de la ville qu'il invente. Donc, ça veut dire qu'à un moment, dans La Cité des Saints et des Fous, vous allez voir un prisonnier qui s'appelle Jeff Vandermeer, qui est persuadé que Ambre Gris n'existe pas pour une raison très simple. Il possède un bouquin qui s'appelle La Cité des Saints et des Fous. Voilà. Il va aussi créer des récits qui sont donc très expérimentaux, avec une narration qui passe par des bibliographies commentées, des notes de bas de page et des commentaires d'œuvres fictives. Ce qui veut dire que vous devez, enfin, quand vous lisez La Cité des Saints et des Fous, vous devez faire attention à la fois au texte que vous avez sous le nez, mais aussi à tout ce qui peut être en fait commenté. C'est assez ardu. Livia Llewellyn, qui est une autrice de weird fiction contemporaine, elle va, elle, adopter le point de vue d'un prédateur d'outre-espace, donc d'une créature un peu monstrueuse et dégueulasse à la Cthulhu. Mais en fait, elle va adopter son point de vue et elle va utiliser des phrases qui sont extrêmement longues, avec une structure qui est très, très fracturée. Et ça, c'est dans la nouvelle « Et l'amour n'aura point d'empire ». Et donc, c'est un texte qui montre en fait comment une créature s'acharne sur tout un tas de gens, dont une femme. Et elle va utiliser aussi énormément de répétitions dans la nouvelle qui s'appelle Alocton, pour montrer que son personnage est enfermé dans une boucle temporelle. Chania Miéville, côté expérimentation, il fait de l'expérimentation aussi, hein, par exemple, mais c'est surtout dans ses nouvelles. Par exemple, dans Compte-rendu de certains événements survenus à Londres, justement, il va insérer des lettres manuscrites. Donc, ça veut dire que vous avez la typographie classique d'un objet livre classique, mais vous allez aussi avoir une imitation de lettres manuscrites et aussi des imitations de compte-rendu d'une séance d'une organisation secrète, voilà, qui surveille les rues de Londres pour vérifier que des rues sauvages et conscientes n'émergent pas. Voilà. Donc, si la New Wave, elle va être considérée par Jeff Vandermeer comme le cerveau du New Weird, l'horreur contemporaine, elle va être vue comme son cœur battant, d'ailleurs. Donc, les influences de Lovecraft et celles déjà un peu plus crues de Clark Ashton Smith, elles vont s'ajouter à celles de Clive Barker, donc l'auteur des livres de sang, que Vandermeer qualifie d'ailleurs de séminal. Alors, pourquoi c'est séminal pour Vandermeer ? Parce qu'en fait, Clive Barker, dans ses récits, il va décrire beaucoup de dislocations des corps, il va beaucoup utiliser le registre grotesque qui est très, très, très présent en weird fiction. Et ça va déboucher, en fait, toute cette thématique par rapport aux transformations du corps et au grotesque, ça va déboucher dans le New Weird sur plusieurs topoi. Donc, à savoir le motif de la métamorphose, celle de l'hybridation, donc vous allez avoir des gens qui vont se mélanger à d'autres choses, et de la contamination, donc avec des possessions, des personnages qui tombent malades et qui se transforment, ce genre de choses. Donc, ces influences, elles sont mises en évidence dans la définition du New Weird par Vandermeer, que je vais en fait copier dans le chat et que je vais ensuite vous lire. Donc, le New Weird, pour rappeler donc la définition de Vandermeer, c'est un genre de fiction qui prend place dans un cadre urbain, ça j'y reviendrai juste après, au sein d'un monde alternatif qui subvertit les idées fantasmées à propos des espaces que l'on peut trouver en fantasy traditionnelle, notamment en choisissant des modèles réalistes et complexes du monde réel comme point de départ pour des décors qui peuvent combiner des éléments de science-fiction et de fantasy. Donc là, déjà, cette partie de la définition, elle montre que... Enfin, elle met en évidence le mélange des genres, mais aussi le fait que le New Weird s'attelle à faire des choses un peu compliquées. Le New Weird est une nature viscérale et instantanée qui mobilise souvent des éléments d'horreur surréalistes ou transgressifs pour son ton, son style ou ses effets, combinés avec le stimulus de l'influence des auteurs de la New Wave ou de leurs représentants. Cela inclut des précurseurs comme Mervyn Peake et les décadents français et anglais. Les fictions du New Weird sont très au fait du monde contemporain, même de manière déguisée, mais pas toujours de manière ouvertement politisée. Comme faisant partie de cette conscience du monde moderne, le New Weird s'appuie, pour son pouvoir visionnaire, sur un abandon à l'étrange, qui n'est pas, par exemple, enfermé dans une maison hantée dans les Landes ou dans une grotte en Antarctique. Cet abandon, ou croyance, de l'auteur peut prendre plusieurs formes, certaines d'entre elles incluant même l'usage de techniques postmodernes qui ne savent pas la réalité de surface du texte. Donc, dans cette partie-là de la définition, vous allez avoir plusieurs choses très intéressantes, notamment la partie sur le fait que ce n'est pas forcément toujours de manière ouvertement politisée. Ça montre que, quand même, ça aborde beaucoup de thématiques politiques. Ensuite, vous avez une référence à Lovecraft, qui est donc, quand il parle de la grotte en Antarctique, c'est une référence... Allez, j'oublie les titres. Aux montagnes hallucinées, voilà, de Lovecraft, en fait, le New Weird essaye de décloisonner, on va dire ça comme ça, l'horreur, en montrant qu'elle peut être absolument partout. Elle n'est pas dans des lieux isolés, elle peut être dans des villes, et même dans des villes très, très, très peuplées. Enfin, d'ailleurs, la dernière phrase qui parle de techniques postmodernes, ça montre que justement, les auteurs du New Weird ont tendance à expérimenter. Alors, ils ne le font pas tous, hein, j'en parlerai tout de suite, enfin, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais certains d'entre eux expérimentent. Ensuite, maintenant, je vais m'intéresser de manière un petit peu plus précise au lien du New Weird avec ses sources, notamment Lovecraft. Donc, de la même manière que Lovecraft ou Clark Ashton Smith, les auteurs du New Weird, ils décrivent leurs créatures surnaturelles avec une multiplication de détails assez costauds, et ça vise en fait à donner une idée très précise de ces créatures-là. Les auteurs du New Weird, les choix narratifs et stylistiques qu'ils vont faire, ça peut être utile. Enfin, ça peut être vu en fait comme la modernisation de certaines techniques que leurs prédécesseurs utilisaient déjà. Puisque par exemple, je vous ai parlé du fait que Mieville mobilise beaucoup. Dans certaines nouvelles, Mieville va mobiliser des lettres manuscrites et des comptes rendus. Lovecraft avait déjà utilisé ça, donc c'est ce qu'on appelle de la polytextualité, et c'est de l'insertion en fait, de textes dans un cadre narratif. Et Lovecraft l'utilise déjà ça dans l'appel de Cthulhu. Et aussi dans celui qui chuchotait dans les ténèbres, puisque dans cette nouvelle-là, dans l'appel de Cthulhu, vous allez avoir une narration qui va se construire sur des manuscrits que le narrateur retrouve. Et dans celui qui chuchotait dans les ténèbres, vous allez avoir des échanges de lettres entre le narrateur et un interlocuteur qui est, ma foi, de moins en moins humain. Mais voilà, je ne vous spoilerai pas cette nouvelle-là. Après, une autre influence qu'on aurait tendance à oublier, alors que elle est fondamentale aussi, au-delà de celle de Lovecraft et de Smith, et donc de l'horreur cosmique, c'est l'influence de Franz Kafka, qui est l'auteur de « Dans la colonie pénitentiaire »,« Le château » ou « La métamorphose ». Puisqu'en fait, l'univers de Franz Kafka, c'est souvent des enfers sociaux, en fait. Hein, il décrit des sociétés qui sont absolument abominables. Et il va mobiliser une forme d'absurde. Et en fait, cette combinaison de l'enfer social et de l'absurdité, ça va donner des choses qui sont cauchemardesques. Certains auteurs de Weird vont d'ailleurs plus se souvenir de Kafka que de Lovecraft, avec par exemple Karin Tidbeck ou Lina Krohn, dont je reparlerai un petit peu après. Un autre lien de continuité entre le New Weird et le Old Weird, c'est le mélange des genres, puisque Howard Phillips Lovecraft, comme vous le... pour ne pas le nommer, il mélangeait déjà horreur et science-fiction dans certains de ses récits, comme L'Appel de Cthulhu, La couleur tombée du ciel ou Les montagnes hallucinées, et il mobilisait déjà un registre grotesque pour ses descriptions de créatures surnaturelles qui rendent notoirement fous les gens qui les voient. On peut considérer que le New Weird va un poil plus loin que ses prédécesseurs, puisqu'il va se situer dans des mondes alternatifs qui peuvent être industrialisés et qui peuvent être dotés d'une esthétique steampunk. Donc, par exemple, vous avez des mondes qui vont être industrialisés. Donc, par exemple, le Balag de Chainamyéville, donc le cycle, on va dire ça comme ça, qui comprend Perdido Street Station, c'est un monde industrialisé. Aquaforte de Kaji Bishop, c'est un monde industriel aussi. Et La Cité des Saints et des Fous de Jeff Vandermeer, c'est un monde industriel aussi. Ensuite, les auteurs du New Weird, ils vont souvent mettre en scène des villes qui deviennent des emblèmes de leur univers. Ça, on le voit surtout chez Vandermeer avec Ambre Gris et chez Mieville avec Nouvelle Crobuzon. Les créatures que les auteurs du New Weird, elles vont être hybrides et elles vont être marquées par leur aspect particulièrement grotesque. Donc, on peut citer la fileuse de Chainamyéville. Donc, c'est une araignée qui est dotée d'une paire de bras humains et qui est capable de parler. Alors, elle est aussi capable de voyager entre les dimensions et elle peut vous arracher les oreilles littéralement pour exprimer son amitié envers vous. Voilà, ne la rencontrez pas, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a aussi les champignons de Jeff Vandermeer, qui sont des humanoïdes fongiques. Ça non plus, je ne vous conseille pas forcément de les rencontrer, puisqu'ils sont capables d'enlever toute la population d'une ville en une nuit, sans laisser de traces. Voilà, bonne chance. Et on a aussi la vermiforme chez Steve Swainstone, qui est une créature métamorphe, qui est composée de plusieurs milliers, voire millions de vers. Enfin, vers les lombriques, hein, pas autre chose. Donc c'est assez étrange aussi. Et donc cet aspect grotesque et hybride du New Weird, on le retrouve déjà chez Lovecraft, avec des créatures qui mêlent différentes formes de vie. Donc on a l'être humain, le dragon et la pieuvre pour Cthulhu, l'ordre végétal et animal pour les anciens des montagnes hallucinées, et les reptiles, les mollusques et les mammifères pour Wilbur Whateley de l'abomination de Dunwich. Mais le New Weird, il va prolonger en fait l'aspect grotesque. On peut dire qu'il y a une espèce de surenchère du grotesque. Ensuite, les auteurs du New Weird, ils vont faire des clins d'œil à leurs prédécesseurs. Là aussi, ça va être pour établir une continuité entre eux et leurs prédécesseurs. Et ça montre en fait qu'ils ont une conscience historique aiguë. Alors, quelques exemples de ces clins d'œil. Dans l'incipit du roman qui est magnifique et que je vous conseille vraiment, Les Scarifiés de Chainamyéville, dans cet incipit, Mieville, il va décrire les profondeurs d'un océan et il va évoquer, je cite, « des présences entre mollusques et divinités patiemment tapis sous 12 000 mètres d'eau ». Donc ça renvoie de manière complètement explicite à Cthulhu. Kathleen Kiernan, qui est d'ailleurs considérée par Vandermeer comme l'une des plus grandes autrices de weird fiction de sa génération, dans des nouvelles, notamment Les Agents de Dreamland et Noir Vaisseau apparu au sud du paradis, elle évoque en fait le réveil de Cthulhu et elle le lie en fait au retour de la sonde New Horizon, donc qui était censée explorer Pluton, où vivent notoirement des créatures chez Lovecraft. Et donc, elle a cette phrase-là qui est « New Horizons était revenu, Relié avait surgi, et celui qui dormait s'était réveillé ». Donc là, il n'y a vraiment pas de secret. Hein. Il n'y a vraiment plus d'humanité non plus, du coup, aussi, puisque Cthulhu qui se réveille, ça fait un certain nombre de dégâts. Un autre auteur de weird fiction, qu'on oublie aussi un petit peu, et qui est Jeff Noon, lui, il renvoie à Kafka, donc dans ses romans qui mettent en scène l'enquêteur John Nyquist. Donc dans la dernière enquête en date de John Nyquist, qui s'appelle « Within, Without », le personnage principal, donc qui est l'enquêteur John Nyquist, il va discuter en fait, dans son esprit, avec Gregor Samsa, donc qui est le personnage principal de la nouvelle « La métamorphose » de Kafka. Alors quand je dis qu'il discute avec lui, c'est que, en fait, dans son esprit, il y a littéralement Gregor Samsa, et il n'est pas le seul. Ce qui fait qu'il y a une scène du roman où il est dans un bar et il discute avec des gens qui ont aussi Gregor Samsa dans la tête. Et certains se comportent de manière assez étrange, et pour cause, le Samsa qui est présent dans leur esprit est transformé en Cancrela. Voilà, je vous laisse imaginer la scène, c'est assez spécial. Les jeux métalittéraires, en fait, que les auteurs du New Weird font, ça va renvoyer en fait à ce que Lovecraft et ses amis faisaient, puisque par exemple Lovecraft, dans certains de ses récits, il évoque un prêtre atlante qui s'appelle Clark Ashton, donc ça renvoie évidemment à Clark Ashton Smith. Et Robert Bloch et Frank Long, ils avaient mis en scène Lovecraft dans leurs nouvelles. Donc Robert Bloch avait même tué Lovecraft dans une de ses nouvelles, de manière assez gore d'ailleurs. Et donc c'est des jeux qui se poursuivent. Ensuite, la conscience historique des auteurs du New Weird, elle va s'observer dans la connaissance en fait que les auteurs du New Weird ont de leurs prédécesseurs. Donc on a par exemple Jeff Vandermeer qui a composé avec son épouse Anne une anthologie qui est colossale, qui s'appelle The Weird, et qui retrace une histoire de la weird fiction sur un siècle. Donc ça va d'Alfred Kubin, qui est un auteur allemand du tout début du XXe siècle, à Kaji Bishop, qui est une autrice australienne complètement contemporaine. Et donc, dans The Weird, il parle aussi de Lovecraft, mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il inclut Lovecraft dans toute une tradition qui a maintenant plus d'un siècle. On peut aussi observer cette conscience historique chez Mieville, puisque Mieville a rédigé une préface d'une réédition des Montagnes hallucinées de Lovecraft, et il a aussi écrit un article sur la weird fiction pour le Routledge Companion to Science Fiction, dans lequel il évoque donc Lovecraft et Smith, mais aussi Algernon Blackwood, Arthur Macken, William Hodgson, M.R. James et C.L. Moore, qui sont des auteurs que Lovecraft connaissait, soit personnellement, soit qu'il les avait lus. Et donc, Mieville les connaît aussi. Ensuite, une rupture qui peut paraître anodine, mais qui est à commenter aussi, qu'on peut observer entre le New Weird et le Old Weird, c'est l'émergence et la démocratisation du format long, donc avec des romans et des cycles qui se déroulent dans le même univers, donc avec le Balag de Chaina Mieville qui est composé de trois romans qui sont Perseus Sweet Station, Les Scarifiés et Le Concile de Fer, qui sont des pavés, donc si vous les lisez, accrochez-vous. On a aussi Ambergris de Jeff Vandermeer qui comprend trois romans assez expérimentaux. Steph Weinstone, elle a publié une pentalogie, et Sabrina Calvo, elle publie des romans. Parce que oui, la weird fiction existe en France, je vous en parlerai tout de suite après. Mais cette différence, en fait, dans la démocratisation du format long, elle peut s'expliquer dans le fait que la weird fiction, elle a d'abord été publiée en magazine, enfin, dans les pulps, comme Weird Tales, et qu'aujourd'hui, en fait, ça existe encore, mais moins, et on écrit plutôt des romans. Mais la forme courte, elle existe toujours, donc il y a des revues existent encore, et on a aussi des recueils de nouvelles d'auteurs qui sont publiés. Donc on a par exemple Olivia Llewellyn, Karen Joy Fowler, Thomas Ligotti et Lisa Tuttle, par exemple, dans les auteurs qui sont plus novellistes que romanciers. Ensuite, je vais vous faire découvrir quelques auteurs et autrices intéressants si vous voulez découvrir donc le New Weird. Je peux d'abord vous proposer de découvrir les cinq textes qui sont identifiés comme le New Weird, qui sont les cinq premiers textes identifiés comme tels lors de leur parution et dans l'anthologie The New Weird au début des années 2000. Donc, je vais vous les présenter par ordre croissant de difficulté, comme ça vous saurez à quoi vous attendre. Donc, on a d'abord L'année de notre guerre de Steph Swainstone. Ça raconte l'histoire d'un ange immortel toxicomane, je vous jure que ce n'est pas une blague, qui s'appelle Jante, et qui est donc un messager qui doit transmettre des informations partout dans un empire en guerre contre des insectes géants et tueurs. Et donc, Jeff Vandermeer dit qu'avec ce roman, l'autrice injecte, sans mauvais jeu de mots, la weird fiction dans l'heroic fantasy, puisqu'on a, on a un personnage avec... On a tout le panel de personnages avec des épées, des batailles, mais les personnages en eux-mêmes sont des immortels assez étranges, et les choses contre lesquelles ils se battent, c'est-à-dire des insectes géants, sont assez étranges aussi. Ensuite, on a Aquaforte de Kaji Bishop. Ça raconte, enfin, ça se situe dans une ville qui s'appelle Escorionte, qui est complètement marquée par sa déliquescence, ses inégalités sociales et sa pègre. Alors, pour l'aspect déliquescent, Vandermeer, et je suis plutôt d'accord avec lui, va noter que Bishop est complètement influencé par les décadents du 19e siècle. Et donc, dans cette ville, qui est, du coup, vous l'aurez compris, pas forcément très très propre ni très accueillante, on va avoir deux personnages qui vont être une médecin qui s'appelle Raoul et un mercenaire qui s'appelle Gwyn, qui vont tenter d'y survivre, donc en voyant tout un tas d'horreurs plus ou moins sympathiques et traumatisantes, mais ils vont essayer de survivre. Ensuite, on a Perdido Sweet Station de Chain Amiville, qui est le roman représentatif du New Weird pour le grand public. Donc, ça se passe dans une ville qui s'appelle Nouvelle-Crobuzon, où vous avez à la fois un contexte politique très tendu avec des grèves, des révoltes ouvrières. Donc Mieville décrit des manifs, hein, il décrit des violences policières, il décrit des syndicalistes très énervés, mais aussi des menaces surnaturelles avec donc les fameuses gorgones qui absorbent l'âme des gens, la fileuse et tout un tas d'autres choses. Ensuite, les deux derniers textes sont des textes assez costauds. Le premier, c'est A Year in the Linear City de Paul Di Filippo. C'est un texte qui paraîtra très prochainement en français dans la collection Une heure lumière du Bélial, donc vous pourrez le découvrir en français. Il a été traduit par Pierre-Paul Durastanti, qui en a apparemment, qui a beaucoup galéré parce que c'est un texte qui est très très dur. C'est une novella, mais ça reste très costaud, et c'est une novella qui va décrire les habitants d'une mégapole qui semble complètement infinie. Paul Di Filippo, c'est un auteur assez particulier, puisqu'il a deux révolutions de l'imaginaire à son actif. La première, c'était avec Ribofunk, qui a fondé le genre du biopunk. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le biopunk, j'ai une collègue qui s'appelle Fran, qui a fait une conférence sur le sujet. Di Filippo ne détient pas le record de révolution de l'imaginaire. Hein. La personne qui détient ce record-là s'appelle M. John Harrison, puisqu'il a fait New Wave, New Weird et je ne sais plus quoi d'autre, mais je sais qu'il en a trois à son actif. Et enfin, le texte le plus difficile, si vous voulez découvrir le New Weird, c'est La Cité des Saints et des Fous de Jeff Vandermeer, qui se déroule donc dans une ville qui s'appelle Ambre-Gris, qui est noyé dans une violence latente, qui éclate lors de carnaval avec, ma foi, des gens qui se font pendre, des gens qui se font égorger, des gens qui se font éviscérer. Et lors de ces festivités-là, vous avez les champignons, donc qui sont les hommes champignons dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui surgissent dans la ville et qui tue tout un tas de gens, enfin, c'est tout à fait sympathique comme ambiance. Mais c'est un texte qui est extrêmement expérimental, avec des narrations et des formes qui sont très particulières. Vous pouvez aussi vous intéresser aux précurseurs immédiats du New Weird, donc avec Kat Koja, qui écrit des romans d'horreur qui sont particulièrement graphiques et particulièrement organiques. Donc je peux vous citer Brèche vers l'enfer et Décérébré. Jeffrey Ford avec les romans qui s'appellent Physiognomonie, Memoranda et L'au-delà. C'est des dystopies weird qui présentent une ville, encore une ville, la cité impeccable, où un personnage doit éliminer des opposants politiques. Si vous êtes très déterminé, vous pouvez tenter votre chance avec Vellum et Ancre de Hal Duncan, qui forment un diptyque. Et ça met en scène en fait des univers parallèles et des conflits divins avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de références métalittéraires, des anges et des personnages qui sont amortels, pardon, donc ça veut dire qu'ils sont en dehors de toute idée de mort. Ensuite, ces dernières années, donc, on a de nouveaux auteurs de weird fiction qui ont émergé, même en France. Hein, quelqu'un dans le chat pourra s'identifier, pourra se reconnaître. Donc, certes, de nouveaux auteurs de weird fiction ont émergé, et on peut parler du coup d'une nouvelle vague de la weird fiction. Alors, certains vont l'appeler le New Weird, et d'autres vont l'appeler le Next Weird. Bon, dans les faits, c'est à peu près la même chose. Dans cette vague-là, on a Lavitidar, qui commence à être traduit en français avec le roman qui s'appelle Aucune Terre n'est promise. Mais c'est surtout son dernier roman en date, qui s'appelle The Escapement en anglais. qui l'ancre complètement dans la weird fiction, puisque dans The Escapement, vous avez des... Ça se passe dans un monde alternatif très typé western, avec des métamorphoses assez dégueulasses, des créatures monstrueuses, et tout un tas de choses qui sentent la weird fiction à plein nez. On a aussi Stephen Graham Jones avec Galeux, qui est un roman magnifique sur les loups-garous, et Only Good Indians. Livia Llewellyn avec ses nouvelles, donc, qui sont regroupées dans Fournaise, qui a été traduit donc, en français, que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et un autre recueil qui s'appelle Engines of Desire. Et on a Brian Catling avec sa trilogie qui s'appelle Vore. Et qui a été, enfin, les deux premiers volumes sont disponibles en français. Ensuite, enfin, je vais vous parler donc de la weird fiction en France et un petit peu ailleurs, puisque Vandermeer lui-même le note et il l'intègre dans The Weird. Hein. La weird fiction n'existe pas que dans le monde anglophone. En France, on a par exemple Sabrina Calvo, donc dans ses romans qui mettent en scène l'enquêteur qui s'appelle Bertrand Lasjambe, donc Délius, une chanson d'été et La nuit des labyrinthes. Elle va montrer donc un tueur qui remplit ses victimes de fleurs, et dans un roman qui s'appelle Toxoplasma, elle montre un homme qui a une tête de ruche d'abeille. On a aussi Jacques Barbéry qui dépeint des créatures particulièrement grotesques dans ses romans Mondocan et Le crépuscule des chimères, mais aussi dans ses recueils de nouvelles L'homme qui parlait aux araignées et Le Landau du rat, donc avec par exemple des montagnes de corps collées les unes aux autres. Enfin, en fait, c'est des cadavres, enfin des... non, c'est même pas des cadavres, c'est des corps vivants et bien vivants qui sont agglutinés les uns aux autres, qui font plusieurs centaines de mètres et qui sont complètement conscients. On a aussi des ogresses souterraines qui donnent naissance à des homoncules. Et on a aussi des créatures d'outre-espace donc, qui veulent s'accoupler avec la Terre. Hein, donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Certaines de mes lectures récentes, donc, notamment Le premier souper d'Alexander Dicko et Capital songe de Lucien Raffmage, en fait, ça montre totalement que la weird fiction est très très présente en France et dans l'actualité éditoriale. D'ailleurs, Le premier souper de Dicko, il est très très marqué par sa métasexualité. Et Capital songe de Lucien Raffmage, ça montre qu'il y a une vraie continuité possible entre le cyberpunk et la weird fiction. En Europe du Nord, on peut parler de Olga Raon, donc, qui est danoise, avec son roman qui s'appelle Les employés. Donc, c'est un roman expérimental qui s'appuie sur tout un tas de dépositions des passagers d'un vaisseau qui ne sont pas exactement humains, et dont les rêves sont contaminés par tout un tas d'objets. En Suède, on a Karin Tidbeck, donc dont le talent est reconnu par les époux Vandermeer eux-mêmes, donc ils la publient et ils la soutiennent. Et elle décrit dans Amatka un monde en fait, dans lequel les personnages doivent constamment répéter leurs noms aux objets pour qu'ils conservent leur forme. En Suède, toujours, on a Anders Fager, donc, qui décrit des cultes lovecraftiens et des horreurs d'outre-espace, tout ça, dans les campagnes suédoises, donc dans les recueils qui ont été traduits en français, qui sont Les Furies de Boras et La Reine en jaune. En Finlande, on a Johanna Sinisalo, qui a inventé plus ou moins le Finnish Weird, donc avec ses romans Le sang des fleurs, Jamais avant le coucher du soleil et Oiseau de malheur. Et toujours en Finlande, on a Lina Krohn. Les époux Vandermeer ont publié une intégrale de l'œuvre de Lina Krohn. Et le roman épistolaire, le seul, je crois, qui a été traduit en français de Lina Krohn, qui s'appelle Tainaron, il se déroule dans une ville peuplée d'insectes qui ont des coutumes, ma foi, assez étranges. En Espagne, donc beaucoup plus proche de nous, on peut compter Rafael Sanchez Piñol avec des romans comme La peau froide, donc, qui décrit des créatures aquatiques qui assaillent des gens qui sont reclus dans un phare, ou encore Fungus, le roi des Pyrénées, où on voit un militant anarchiste qui donne vie à des champignons géants et anthropomorphes pour mener la révolution. C'est tout un programme. Au Japon, on a Dempo Torishima avec Sisyphéen, donc qui mêle une influence kafkaïenne et du biopunk, avec une multitude de transhumanités toutes plus étranges les unes que les autres. Et à Taïwan, on a un auteur qui s'appelle Chou Ta Wei, qui s'oriente parfois vers la weird fiction avec certaines des nouvelles qui sont présentes dans le magistral recueil qui s'appelle Perle et que je vous recommande beaucoup, notamment L'après-midi d'un faune, mais aussi, attention, titre très long, Au fond de son œil, au creux de ta paume, une rose rouge va bientôt s'ouvrir. Voilà. Donc, on a vu que le New Weird, c'est une itération ultra-contemporaine de la weird fiction qui assimile des influences lovecraftiennes pour les mêler à d'autres sources, telles que la New Wave ou l'horreur grotesque, pour créer des formes d'altérité radicale dans des mondes parfois gigantesques, avec un propos davantage progressiste et des techniques littéraires et narratives plus modernes. Donc, je rappelle, à toute fin utile, que j'écrirai un article complet à partir de cette conférence sur mon blog avec des sources. Et j'espère que cette petite conférence sur la weird fiction et sur le new weird a pu vous intéresser. Voilà. Donc, et merci encore à l'association Miskatonic de m'avoir accueilli.
It could be anybody's. Perhaps not if you die. Yes, we need life, but... Center Kane.